What's up, what's up, good people? To those of you listening wherever, whenever, whatever time it is, good morning, good evening, and good night. You are locked into another Tuesday evening with Soul Perspectives right here on CKUT 90.3 FM. Soul P has been on the air since 1994. We bring you all the topics, the guests, the ups and downs, the highs and the lows of the black community here in Montreal, across Canada, and internationally. I'm your host for the evening, Kim Dominique Ferguson, and we have a beautiful evening of music and discussion lined up for you tonight. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives right here on CKUT 90.3 on your FM dial.
Sufi woman, bring me roomy till I fall asleep up on your bosom. You're a lion, but you walk around so unassuming. You go shine your eyes, you don't put it on me. Put a liquor spell on me. What thing you do to me? You no go walk on me. You go see. You go night, night, night. You go shake it in. You go see that goddess in La Bruja, in La Bruja. Never die, she could die, my room, La Bruja, La Bruja. She never die, she could die, my room, La Bruja, La Bruja. She never die, she dies, as in Yalila, Yalila. Sufi woman, bring me roomy till I fall asleep up on your bosom. Sufi woman, you're a lion, but you walk around so.
Jonathan Amir, let's go.
Babylon is falling. Babylon is falling. Babylon falling. Babylon falling. This year, Babylon and Babylon are falling. Babylon falling. Babylon's falling. See, most of us can't realize. Our world on this earth. See, down present man a capitalize. He give you peace of the power. We close on the eye. See, this can maintain. Some things are too strange. We need our seed to grow against the grain. Yeah. Empires will crumble and fade away, or will I have to change the way? Babylon is falling, Babylon is falling, Babylon falling, Babylon falling, my dear Babylon, Babylon.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and returning to be with us this evening are two guests that we had back in February during the Teen Talks, Evelyn Ferriere and Olivia Mabote. So, Evelyn Ferriere, and today, just so you know, we will be speaking mostly in French. I will, you know, jump in English every once in a while, but our guests will be articulating in French, and we're in Quebec, so, you know, we do have to pay homage to our French-speaking Black community. So, Evelyn Ferriere est une titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques, originaire de l'île de Maurice, se spécialise dans les enjeux de justice raciale et afroféministe dans les contextes occidentaux et africains. Elle est passionnée par tous ces défis de justice sociale et a toujours souhaité pouvoir y participer tout au long de son parcours. Elle commence sa carrière dans le domaine du droit, dans son pays d'origine, mais décide finalement de sauter le pas et de se rapprocher de cet engagement qui la passionne, le milieu politique et communautaire. Depuis son arrivée à Montréal, elle accorde une grande importance à son engagement social, que ce soit en participant à des événements artistiques, des séminaires de recherche ou des expositions historiques, travailler pour la communauté immigrante qui l'accueille lors de son installation à Montréal est une évidence pour elle. Cette occasion de s'impliquer dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce en tant qu'intervenante en prévention de violences sexuelles et de l'exploitation sexuelle est essentielle pour elle, car elle reconnaît l'importance d'offrir aux communautés la diversité culturelle, accès à ses ressources et soutien. Dans le but de promouvoir une perspective de réparation durable pour nos communautés, Evelyn considère qu'il est primordial de préférer la réparation et la reconnexion à nos corps et à notre histoire caribéenne et africaine. Cette vocation pour la justice de genre et culturelle la suit travers les différents projets qu'elle porte, en passant de l'émission d'actualité C'est pas notre genre sur les ondes choc.ca aux recherches Redonner la voix au parcours de vie et à l'expérience des femmes noires et la flamme qui l'anime. Olivia Mabote, coordonnatrice du programme Genre et égalité chez Prévention Côte-des-Neiges Notre-Dame-des-Grâces, est titulaire d'une maîtrise en sciences politiques et d'une licence en administration économique et sociale. Olivia est passionnée par des thèmes comme l'inclusion, la lutte pour l'égalité des genres et la justice sociale, l'autonomisation et l'entrepreneuriat des femmes ou encore le droit des femmes et des enfants. Ses débuts dans le domaine communautaire l'amènent à travailler activement pour l'arrondissement Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce en tant que coordonnatrice des programmes d'art, équité et genre. Olivia soutient également l'importance de l'expression artistique dans le processus de changement économique et social, car elle croit fortement qu'incorporer l'art permet de libérer les esprits. Ses connaissances et son expertise ont été façonnées à travers différents voyages et rencontres culturelles en Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Europe qui lui permettent d'avoir une vision très ouverte sur les défis locaux et internationaux. Elle est également fondatrice d'un podcast, Une discussion avec Tantine, qui fait la promotion du leadership personnel à travers des sujets tels que la santé mentale, le bien-être, la définition du succès ou encore la place de la femme moderne dans la société. Evelyn et Olivia, re-bienvenue à Soul Perspectives.
Et merci, re-merci de nous avoir parmi toi aujourd'hui.
Encore.
Encore une fois. Encore. La phrase est trop bizarre, mais oui. ça fonctionne.
Oui, donc la dernière fois, nous avons pu parler, mais vraiment brièvement, du projet Black Love qui s'est passé en février. Mais depuis la pandémie, le show est plus un showcase sur nos invités. Et donc, je voulais plus savoir un petit peu plus de vous. Comment vous êtes arrivé à Montréal? Pourquoi Montréal? Pourquoi quitter vos pays bien chauds bien ensoleillé pour venir ici pour 8 mois d'hiver et 4 mois de quelque chose d'autre.
Ben oui. Ben écoute, moi de ma part, pourquoi Montréal? Honnêtement, ça s'est fait sur un coup de tête. Ça s'est fait sur un coup de tête. Comme tu l'as dit tout à l'heure là, moi j'étais déjà engagée dans mes études de droit à Maurice. Avec Assas, Porto Assas à Maurice, donc j'étais déjà engagée, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin de quelque chose qui me passionne, qui m'anime, j'avais besoin de cette flamme, et j'avais vu que, en tout cas pour moi, le droit c'était pas ça, c'est plus rigoureux, c'était moins militant ce que j'avais besoin, donc en 2 semaines, j'ai dit « papa, je pars ». Je pars au Canada, je pars, je veux faire de la science politique, je veux faire de l'intervention. Voilà, 2 semaines. Donc, un peu le choc pour eux aussi. Wow. Le Canada, c'est loin. On n'est pas beaucoup de Mauriciens ici. Donc, avec tous les enjeux aussi que ça amène d'être une femme immigrante africaine ici. Donc, mais en 2 semaines, je l'ai fait. Je suis venue toute seule. Et pour poursuivre cette passion et chercher un peu comment je pouvais m'engager, au fait, en tant que femme ici.
Olivia.
Et moi, écoute qui, moi, je n'ai pas laissé un pays chaud, hein, malheureusement pour moi. Non, moi, mes parents, ils sont d'origine congolaise. Okay. Moi, je suis née en France.
Okay.
Et puis, j'ai grandi en France aussi. Qu'est-ce qui m'a fait laisser la France? Mais je ne sais pas si tu connais un peu la situation en France. Hein. Comment ça se passe? Les discriminations? La vie qu'on a, en fait, en France fait que moi, je me sentais déjà étouffée. Ça fait très longtemps. Et je savais que j'allais partir, mais je ne savais pas où. Et le Canada, ça m'est venu un peu comme... c'était une erreur, on va dire, le Canada, là-bas. Okay. Il faut que je dise la vérité. Moi, je rêvais de vivre à New York et travailler pour Bad Boy Records. Je ne sais pas ça vient d'où, ça. Mais quand j'étais jeune, je te promets, c'était mon rêve de base.
OK, plus maintenant.
plus maintenant. Avec tout ce qu'on entend là, c'est bon. Je pense que je me suis calmée. Mais j'ai fait un stage de fin d'année quand j'avais à peu près 21 ans. Donc, j'étudiais en France. Okay. J'ai fait un stage et le stage était à Montréal. Et on était comme un petit groupe d'amis. Et quand je suis arrivée, et puis le fun qu'on a eu sur place... Je me suis dit, oh, finalement, en fait, c'est un bon espace pour mixer ce besoin que j'ai d'être dans une culture un peu américaine, nord-américaine, et puis le français. Donc, ça mixe. Mm-hmm. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivée au Canada, moi.
Mm-hmm. Et vous deux, vous êtes impliqués dans les arts. Est-ce que vous pouvez nous donner comme une explication de comment vous vous êtes impliqués dans les arts?
Les arts, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a un peu deux types de choses que je vois dedans. C'est, j'ai grandi dans une famille d'artistes. Ma mère est professeure de danse classique. Je suis une danseuse classique aussi. Donc, l'art a vraiment été et fait toujours partie de ma vie au quotidien. Plus au niveau de la danse, par exemple. Moins du dessin ou art visuel, mais plus du corps. Et j'étais pas vraiment consciente de ça au début, mais c'était vraiment quand je suis arrivée ici à Montréal que j'ai compris, avec aussi le choc de l'immigration, à quel point l'art et la danse m'avaient structurée, moi, dans ma vie, enfin, en tant que femme, la Evelyne que je suis aujourd'hui, et à quel point c'était aussi une thérapie pour moi, finalement. C'est comme, c'était un lifestyle, finalement, et aussi une thérapie. Quand j'allais pas bien, c'était la danse, c'était pas forcément les mots, le counseling, aller chez les psychologues. C'était la danse, c'était exprimé par mon cœur, ce que je ressentais. Donc. Et aussi l'art, quand tu dis l'art, moi ce qui me vient en tête et que j'ai vraiment compris ici à Montréal, c'était la musique. Quand j'entends des tambours, quand je vais à des fêtes caribéennes, si je vais à des soirées de zouk ou quoi, mais le fait d'entendre cette musique, d'entendre les tambours ou quoi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien au niveau presque de thérapie. Et là, j'étais comme... L'art prend vraiment une place importante dans ma vie et une place finalement dans nos vies des personnes du Sud aussi, entre guillemets. Mais c'est ça un petit peu mon histoire, mon approche à l'art.
Et Olivia, ma beauté.
Moi, de mon côté, alors, je n'ai pas vraiment commencé à mettre mes pieds dans l'art. moi, que j'ai commencé dans le sport. J'ai fait du sport, j'ai fait du tennis de compétition pendant longtemps. Mais ça, c'était un peu mon père qui me coachait. C'est un peu son côté de lui que j'ai pris parce que quand il était plus jeune au pays, il jouait au tennis. Et puis, il me l'a donné comme une passion. Mais le côté artistique, j'ai ma mère qui coud, qui fait des vêtements pour elle-même et mon frère qui dessine. Donc, j'ai toujours été un peu au milieu. Mais moi, c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais des habiletés pour pouvoir dessiner ou peindre des choses comme ça. C'est vraiment l'âge adulte, là, comme je suis maintenant. Mais moi, je me suis rendu compte que, ah ouais, il y a quelque chose, en fait. Je pense que la sensibilité qui vient avec peut-être le signe astrologique, le fait d'être une femme poisson aussi. Alors, des fois, hein, on dit que ça peut avoir un lien. Mais depuis jeune, je savais que pour soutenir aussi la jeunesse, l'art, c'était un bon pont. Donc, on a des missions sociales qu'on essaye de faire. On essaye de retrouver les jeunes, mais comment les jeunes interprètent aussi leurs sentiments, quand ils peuvent l'interpréter, c'est souvent à travers l'art. Et puis, c'est comme ça que moi aussi, ça a pincé ma curiosité, parce que je voulais comprendre, en fait, comment on essaye de faire avancer des projets sociaux, mais en même temps d'inclure les jeunes à travers le langage qu'eux, ils connaissent. Donc, pour moi, ça a commencé, ça. Je suis toujours dedans là. C'est toujours la façon que moi j'utilise pour essayer de comprendre le monde.
Et c'est quoi l'importance de l'art dans l'activisme et le travail social? C'est quoi l'impact et l'importance? Pourquoi est-ce qu'il y a un genre de blending entre les deux dans vos travaux?
Moi, j'ai parlé en tant qu'intervenante. Parce que je pense que ça se décrit sous différents niveaux. Donc, moi, ça serait au niveau d'intervenante avec les populations que je sers et que j'aide. Pourquoi? Parce que moi, ce que je vois à travers l'art, c'est une fenêtre d'expression, une autre fenêtre d'expression, une autre façon de s'exprimer. Je travaille avec des jeunes ici à Montréal et à Maurice avec des femmes. Tu sais, c'est vivre ses émotions, comme Olivier l'avait dit, vivre ses émotions de façon différente et pouvoir aussi trouver une crédibilité à ça aussi, je pense. Tu sais, parce que bien souvent, tu sais, on dit que si on veut que ce soit crédible, soit plus par les mots, qu'on s'exprime par les mots, par les cadres beaucoup plus structurés. Mais développer le domaine de l'art dans ce domaine-là d'intervention, ça permet aussi aux personnes de se reconnecter à ce qu'elles ressentent et de redonner de la crédibilité à ce qu'elles ressentent, autre que par leurs mots. Donc, tu sais, moi, je travaille en violence sexuelle. J'ai travaillé en violence sexuelle à Maurice et ici à Montréal. Tu sais, le passage de la dépression, par exemple. La dépression, l'anxiété aussi. Donc là, c'est plus des couleurs peut-être noires ou plus de la frustration. Juste pouvoir faire ce cycle un peu de la thérapie, de la réparation à travers l'art. Je trouve ça vraiment intéressant et ça permet aux gens qu'on aide ici de se dire que mon histoire, elle vaut en fait. Elle ne vaut pas juste par des mots, mais elle vaut aussi parce que je ressens et comment je peux l'exprimer. Je pense forcément être super, avoir vraiment être super bonne en dessin ou en musique, mais juste que si c'est ça qui sort, bah c'est ça qui vient, c'est ça qui est bon aussi.
Ouais. Et moi, de mon côté, je suis totalement d'accord avec ce que Evelyne dit. Moi, mon approche, elle est toujours très changement, évolution et puis construction, on va dire, sociétale et économique. Donc, j'apprends beaucoup d'Evelyne. Elle m'apprend beaucoup à rester in touch avec ses sentiments, ses émotions et tout. Et puis, comment faire une espèce de réparation à travers l'art avec ça. Donc, moi, j'apprends énormément d'elle. Moi, pour moi, l'art, c'est une façon, je me dis toujours, tu peux pas construire quelque chose de nouveau si tu l'as pas imaginé. Et puis, chez la jeunesse, si on leur empêche de développer ce côté imagination, de vraiment travailler dessus, de vraiment, tu sais, surtout quand on va à l'école, veuille ou veuille pas, on nous apprend à être très structuré pour un but, c'est pour aller remplir des positions définies dans la société. Mais quand on veut sortir de cela, il faut pouvoir le voir déjà, il faut créer. C'est là où la créativité rentre en jeu. C'est là où être artiste, ça peut te permettre d'avoir une vision nouvelle aussi pour pouvoir aller atteindre certains enjeux différents. Et puis même dare, en fait, d'aller chercher d'autres choses que certaines personnes se sont arrêtées parce que mentalement, ils se sont stoppés là. Ils se sont arrêtés là. Donc moi, je pense que la créativité, l'art, ça rejoint tout ce qui est imagination et ça pousse en fait les gens, ça les force à voir plus loin que ce qu'on a déjà, ce que la société nous met comme barrière. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important de l'utiliser, d'apprendre aux jeunes de constamment aller dépasser leurs limites et de se recréer à travers leur expression qui leur est propre.
Oui, exactement. Bon, c'est ça. En tant qu'artiste moi-même, je résonne beaucoup avec ce que vous dites par rapport au soutien psychologique que l'art laisse, that art allows us to express. Parce que parce que moi, je suis écrivain, je suis poète, spoken word. Des fois, quand on se voit dans une situation, que ce soit une confrontation ou bien déprime, s'exprimer dans le moment même, c'est pas toujours possible selon comment on a grandi, comment on est socialisé, notre culture. Chaque culture a comme, OK, tu as le droit de t'exprimer de telle façon en public et de telle façon en privé, de telle façon devant les parents, de telle façon devant. Mais des fois, ces façons-là de s'exprimer, c'est pas la vraie sentiment qu'on a en nous. Et donc, l'art permet à s'exprimer autrement. Si on a besoin de dire des mots un peu grossiers, on peut le dire en écrivant, puis en faisant de la poésie, mais on ne peut pas forcément le dire. Disons, c'est un adolescent, il peut pas forcément le dire à ses parents, dépendant de comment cette personne-là a grandi. Ou bien si c'est un artiste et a besoin de montrer comment, genre, un moment est monstrueux pour eux, c'est plus facile de le faire artistiquement, visuellement. Donc, je résonne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ce que vous dites par rapport à l'art et le besoin de l'art dans l'aspect social, dans l'aspect guérison aussi. So, ladies and gentlemen, we are talking to Evelyne Ferrière and Olivia Mabote. But we do have to take a quick break because this is Radioland and we got to pay some bills and we got to play some music. So keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
A compensation claim for abuse at an Indian residential school. The records of your claim are secure. They will be destroyed in September 2027 unless you choose to keep them or share them. To learn more, call toll-free 1-877-635-2648 or go to myrecordsmychoice.ca.
A little more clear. are coming, so I live to see another day. All I think about if I was just to run away, would I come back to love you? No. I don't wanna change the world, I only wanna stop pretending. What you say? Come again. What you say? Come again.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and today we'll be speaking a lot in French. Our guests are Evelyne Ferrière and Olivia Mabote from Prévention Côte-des-Neiges NDG. Olivia is the coordinator of the... coordinatrice du programme Genre et Égalité chez Prévention Côte-des-Neiges NDG, and Evelyne est une intervenante en prévention des violences sexuelles et exploitation sexuelle à Prévention Côte-des-Neiges NDG. Olivia, Evelyne, merci d'être revenue ce soir. Thank you for coming back this evening. You were with us on the last Teen Talks in February. To give us a little taste of what you guys did in February for Black Love following St. Valentine's Day. Donc, je voulais parler un petit peu plus de ça. Récapituler un peu, parce qu'on a parlé un peu de ça en février, mais pourquoi vous avez décidé de faire cet événement-là? Et aussi, comment, c'est quoi le lien entre l'événement et vos positions en tant qu'intervenante en prévention des violences sexuelles et coordonnatrice du programme Genre et Égalité?
Mm-hmm. Comment est né ce projet? C'est une grosse question. Je suis quelqu'un déjà très engagé dans toutes ces questions et mobilisation des communautés noires dans une perspective de réparation. Donc moi, je suis vraiment, et je voulais vraiment, au sein de Prévention, faire quelque chose, au fait, pour le mois d'histoire des Noirs et pour la communauté de Côte-des-Neiges, qui a quand même une forte population noire et afro. Donc, pourquoi un ciné-discussion, un movie discussion about Black Love? C'était vraiment recentrer un peu la discussion sur quelque chose de positif, sur une thématique de réparation. Mm-hmm. Parce que je pense que malheureusement, et on peut le voir vraiment souvent, que quand on aborde la thématique de l'amour ou la thématique des violences conjugales et sexuelles, les communautés noires sont perçues, c'est vraiment un message très, très médiatique, très politique aussi, comme des communautés fracturées, des communautés où il y a de la violence familiale, intergénérationnelle, de la violence conjugale aussi et des violences sexuelles du coup. Donc c'est vraiment un message politique et médiatique qui est vraiment très très présent. Et moi je crois que c'est la représentation, le fait que ce message soit omniprésent, il influence, il impacte la formation en fait des jeunes en fait, mm-hmm, dans leur quotidien, la formation de leur identité aussi, à quelle communauté j'appartiens, quels sont moi mes vecteurs d'amour, est-ce que moi je suis vouée à un peu cette tragédie d'être soit une femme noire victime ou soit un homme noir violent. Donc je voulais un peu briser ce schéma très politique.
Okay.
Et en mettant au centre une perspective vraiment décoloniale de « Ok, on va parler d'autre chose. On va casser ce cercle vicieux, on va parler d'autre chose. On va parler de Black Love. Mm-hmm. Comment nous, les communautés noires et les différentes communautés noires, on exprime l'amour, comment on le ressent différemment l'amour et comment ça peut vraiment être important, soit dans un couple, dans une famille, dans une communauté. » Et c'était un peu ça ma mission, c'était de casser un peu cette tragédie, cette trame narrative de Black community, ils sont violents ou il y a de la violence sexuelle ou quoi, particulièrement chez nous. C'était casser ça. Mm-hmm.
Donc c'est plus pour donner une alternative à l'image qui nous est présentée beaucoup dans les médias, maintenant beaucoup dans les médias sociaux, dans les films, dans les émissions de télé aussi. C'est pour offrir quelque chose d'autre. OK.
Exactement.
Et Olivia?
Moi, en tant que coordinatrice, surtout dans un projet comme ça, c'est vraiment... Moi, j'ai l'œil sur beaucoup de jeunes. avec des origines différentes. Et puis, moi, dans ma carrière à moi, j'étais bloquée quand, par exemple, on parlait de moi, l'histoire des Noirs, quand moi j'ai commencé dans d'autres organismes communautaires, et qu'il fallait parler de nos histoires à nous, c'était toujours des histoires de souffrance, encore une fois. On doit parler de l'esclavagisme, on doit parler... on faisait des grandes réunions pour exprimer... les difficultés que nous, collègues noirs, on pouvait avoir et essayer de l'exprimer à d'autres collègues. Moi, je trouvais que c'était... En fait, c'est pas comme ça que je veux qu'on voit ma personne en tant que femme noire, en tant que femme de couleur. Et puis, c'est sûr que quand Evelyne, elle est venue avec cette idée, moi, je l'ai poussée à 1000% parce que c'est tout ce que moi, j'ai pas pu avoir dans d'autres organisations. Et l'apport qu'on m'a pas autorisé à prendre quand moi j'étais dans la position d'Evelyne en fait. Donc quand elle est venue avec cette idée, moi j'ai dit écoute, c'est ce dont nous on a besoin en fait dans cette communauté, c'est la possibilité d'ouvrir la discussion, d'avoir même des espaces de discussion pour parler de qu'est-ce qui nous semble être le Black Love pour nous, en dehors de, comme tu l'as exprimé, de tout ce qu'on voit là dans les films, les sociétés, et puis même d'avoir des discussions, même de guérison pour le coup, où ben, on fait des débats. Donc pour moi, c'était simplement ça, c'était de donner l'espace à Evelyne, où elle était capable aussi de pousser la narration un peu plus loin dans un débat et dans une problématique que ben, nous tous, en fait, on avait besoin d'avoir et d'entendre.
OK. Je demande cette question-là. En quoi le racisme systémique a influencé la perception négative du Black Love? Comment est-ce que ça nous a poussé à être là et comment peut-on commencer, parce que c'est une assez grande question à répondre, mais comment on peut commencer à briser cette prise, this hold that systemic racism has on us and that continues to influence the way that we perceive even ourselves?
C'est une très très belle question et très grande aussi. Donc je vais essayer de peut-être apporter des éléments de réponse. Comment le racisme systémique donne une perspective négative de cette volonté de Black Love? Le Black Love, tu sais, ça reste en son essence même un mouvement très révolutionnaire. Pourquoi? Parce que ça change et ça casse et ça dit non au schéma narratif majoritaire, c'est-à-dire que Black Love, Black people can't love. Ils ne peuvent pas ressentir de l'amour, ils ne peuvent pas mériter de l'amour. Donc, pourquoi le racisme systémique impacte tout ça? Parce que c'est révolutionnaire. C'est un mouvement révolutionnaire. Penser l'amour pour les personnes noires, c'est révolutionnaire. Donc, tout ce qui est voué au changement fait peur. Et surtout au changement pour une réparation durable de communauté fait peur au système et à la pérennité du système majoritaire, donc colonial, qu'on est toujours en ce moment. Et aussi, comment ça impacte plus concrètement, malheureusement, c'est vraiment, par exemple, si une femme noire va... Il faut déjà savoir que les femmes noires sont trois fois plus victimes de violences, d'agressions sexuelles et de viols que les femmes blanches, par exemple. Les femmes noires sont beaucoup plus touchées par ces agressions et cette problématique-là, qui est systémique, for sure. Mais là encore, pourquoi le système impacte et le racisme systémique, c'est quand une femme noire va dénoncer à la police « Ok, je suis une victime, en fait. Je suis une victime, je suis une survivante de violences sexuelles, je veux porter plainte. » La majorité d'entre elles, les plaintes ne vont pas aboutir, elles ne vont pas être crues. Et parce qu'encore, il y a le schéma narratif qu'une femme noire, elle est habituée à être une victime. Les communautés noires, tous sont habituées à être des victimes, à être dans des relations violentes et toxiques. Donc, au niveau de même du système judiciaire, les femmes noires sont beaucoup plus vulnérables parce qu'il y a encore ce schéma de la femme noire victime. L'homme noir, cette fois-ci, c'est encore plus complexe pour lui parce qu'il est directement aussi perçu comme agresseur. Homme violent, tu sais, comme hyper sexualisé, donc la sexualité noire, par exemple. La sexualité de l'homme noir, qui est l'homme violent, l'homme dominant, donc exactement, qui peut lâcher des fois qu'une relation sexuelle qui peut être saine et douce, ça ne rentre pas dans, cet imaginaire. Et donc lui, au niveau judiciaire, il est beaucoup plus vulnérable aussi parce qu'il a moins espace à la parole à cause de ces schémas qui sont politiques quand même. C'est très politique, c'est très colonial encore. Donc voilà un peu comment ce système-là fait peur, le Black Love, ça fait peur parce que ça nous permet, nous, de discuter entre nous de comme je ne suis pas qu'une femme noire victime, je peux aussi être une femme noire, tu sais, comme le podcast d'Olivia, tu sais, comme, qui a du leadership, qui a de l'agentivité, qui peut survivre. Donc ça fait peur au système parce que le système ne veut pas ça sur la pérennité.
Ouais. Ça ne rentre pas dans l'image que le système veut continuer et perpétuer.
Exactement.
Ouais. Moi, je suis totalement d'accord avec Evelyne. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des espaces de communication, de discussion. On doit pouvoir parler, comme tu nous autorises là de le faire sur ta plateforme, de parler de ça parce que nous, ça nous permet entre nous de guérir et d'avoir des débats qui nous sont propres et de se centrer aussi sur notre vision afro. Et en le faisant, ça nous permet aussi, il y a d'autres aussi, personnes, on a des alliés, hein, il y a des personnes aussi autres que la culture afro qui sont là prêts à écouter et prêts à soutenir. Mais en même temps, il faut plus de ce genre d'espace pour qu'on puisse discuter, partager nos expériences et puis en même temps se guérir. Quand on va faire ce pas de pouvoir se guérir aussi ensemble et on va aussi, que ce soit adulte, que ce soit enfant, on va s'amener vers un cheminement où ben, on s'entend, on se comprend et puis en même temps, on se voit, nous, en tant qu'individus, nos propres valeurs, qu'est-ce qu'ils ont été, par exemple, les discours et les discussions qui nous ont été prédéfinis à la naissance et qu'on a accepté ou qu'est-ce qui fait de nous, qu'est-ce qui faisait de nous aussi un peu en arrière avec nos ancêtres et tout, nous reconnecter aussi avec notre histoire. Quand on va avoir en fait en main toutes ces clés-là, tous ces schémas pour nous reconstruire, c'est là aussi qu'on va pouvoir ben, soutenir nous notre propre évolution et puis on va aussi soutenir du mieux qu'on peut aussi ce changement, ce racisme aussi systémique, cette image que la société veut nous mettre sur nous. On va dire ouais, mais ça c'est vous, mais nous on a notre propre image et le fait de le porter aussi fièrement, ça peut aussi nous aider à nous faire percevoir différemment. Je dis peu parce que ben on est encore dans la reconstruction, on fait du mieux qu'on peut aussi pour arriver vers là-bas, mais ça peut être des clés aussi de solutions.
Mm-hmm. Ok. Et en tant que femme noire, qu'est-ce qui est une des choses les plus importantes à changer dans la perception de l'amour pour vous? Vous n'attendez pas ça aujourd'hui, hein?
Wow.
Je veux dire, au contraire, moi, je suis prête.
Ok, Olivia, allez-y.
Ouais, j'y vais, let's go. Moi, je pense que pour nous, et puis c'est aussi dans notre communauté à nous, c'est le fait d'être perçues toujours comme des femmes super strong.
Ok.
Qui n'ont pas de difficultés, qui, en fait, on veut déjà même le changement d'essayer de se faire percevoir comme des femmes qui peuvent être douces seulement et qu'on peut prendre soin de nous, qu'on peut nous accompagner, qu'on peut nous aimer aussi correctement. Ça, pour moi, c'est un grand changement. Et quand je parle comme ça, moi, je pense souvent Black Love, si on parle d'une femme à un homme, et Black. On parle souvent de, tu sais, quand on a grandi là un peu moins maintenant qu'on est adulte, mais on avait souvent ce débat avec les jeunes garçons noirs qui nous disaient toujours « Ah, vous n'êtes pas assez belle, nous on va chercher des femmes blanches, par exemple. Okay. » Tu vois ? On a eu ce débat, on a toujours ce débat. J'entends plusieurs jeunes qui vont me rapporter ça. Et puis ça va être « You are too loud, vous êtes trop dur, vous n'êtes pas assez belle, vos cheveux sont comme ça, votre peau, elle est comme ça, tout ça, c'est vraiment... » Moi, je me dis si déjà, nous, en tant que femmes de couleur et dans notre communauté, on arrive à nous percevoir, nous, femmes noires, comme des êtres sensibles et douces et puis à protéger. Il y a aussi beaucoup de changements qui vont être apportés avec ça. Je vois qu'Evelyne est en train de hocher la tête, là. J'en suis sûre qu'elle, là, ça remue des trucs chez elle.
Allez, Evelyne, parle-nous.
Ben là, tu m'as pris de court parce que j'allais vraiment dire ça. Tu sais, comme réapprendre ou remontrer que la femme noire aussi mérite de l'amour, du caring. Comme, tu sais, là, je pense que la thématique de la solitude, des fois, c'est vraiment quelque chose. Quand tu es une femme noire, c'est que tu es tellement habituée à prendre soin des autres, de ta communauté, de ta famille. Quand toi, tu vas pas bien, tu es seule. Quand tu demandes de l'aide, on te répond, comme Olivia l'a très bien expliqué, que you're strong. I know, je sais que je suis strong, mais là, j'ai envie d'être fragile. J'ai envie qu'au moins, on me montre que, tu sais, on peut s'occuper de toi et on veut s'occuper de toi. Et que le monde va continuer à tourner si toi, demain, tu décides de prendre tes valises. Ouais. Et faire une semaine de partir. Mais aussi, tu sais, ce que ça me fait, ce que ça me fait vraiment le black love pour une femme noire, c'est deux choses. C'est premièrement, tu sais, comme apprendre aussi à changer son narratif, à apprendre aussi à aimer un homme noir. Qu'est-ce que ça comporte, en fait, tout ça? Tu sais, discuter avec nos frères noirs, discuter aussi de les écouter. Comment, en fait, on peut s'aimer? Comment on peut s'aimer? Comment je peux comprendre ton struggle? Comment toi, tu peux comprendre mon struggle? Comment on peut faire un couple noir qui est sain? Et pas que chacun soit, se sente seul, parce que we have to be strong, mm-hmm. tu vois. Mais aussi, une autre chose que la couleur de peau, le colorisme pour une femme noire, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Moi, je viens du Nil, mais le fait que c'est un truc qu'on a beaucoup vécu. Tu vois, le fait que tu as un peu plus light skin, donc tu as plus de chances d'avoir un mariage ou un futur social qui est plus value mm-hmm. que la femme noire, plus dark skin à côté de toi, qui est ton ami. Donc déjà, c'est quelque chose de très, c'est aussi une pensée très colonisatrice, mais le fait de se mettre en compétition entre nous, par exemple. Mm-hmm. Une femme plus claire de peau va être moins bien accueillie parmi ses sœurs plus dark skin, parce qu'elle va être plus jugée comme une menace, par exemple. Tu vois, une menace, elle a plus de chances de trouver un mari, donc là, je suis plus en compétition avec elle. Mmh. Encore, cette idée du colorisme, ça nous fracture, nous, entre sœurs noires, dans ce sisterhood-là, ça nous fracture. Et je pense qu'il y aura une discussion décomplexée dessus, sur la couleur même de la peau, sur cette échelle de qui se rapproche plus de la blancheur. Et qu'on n'est pas dans la course à la blancheur, au fait. C'est d'apprendre à aimer nos couleurs, apprendre à aimer nos formes dark skin et light skin. Et que, no matter what, comme chacune de nous, on a, je pense, le même droit à un mariage sain, en fait. Mm-hmm. Tu vois? Mm-hmm.
C'est intéressant que vous parlez de vouloir être doux, parce que vous êtes fort tout le temps, ou vous êtes, on vous perçoit comme fort tout le temps, forte tout le temps. Mais en tant qu'homme noir, c'est la même expérience que j'ai. Parce que je dois... en tant qu'homme, on est déjà... On oublie noir. En tant qu'homme, on doit toujours être fort. On doit toujours être... tu sais, we always have to be strong. Mais c'est le même sentiment que j'ai que... Comme je suis un peu fatigué d'être fort. When do I have my soft boy era? Tu sais? Donc, c'est comme si on est tous les deux, surtout dans la communauté noire, on a besoin de la douceur, parce que je peux dire aussi, je peux exprimer que il y a beaucoup de fois que en interagissant avec les femmes noires, c'est comme vous êtes dur là, on n'a pas besoin de se battre comme ça, on n'a pas besoin de tout le temps, on est toujours en train de as we say in English, butt heads and fighting each other. Et je vois que c'est un problème qui nous empêche de progresser. J'ai travaillé récemment avec quelqu'un et j'étais très réticent au début, parce que je voyais que cette personne-là était toujours dans la force, puis elle était dans le... Puis quand j'ai vu la douceur venir, là, j'ai pu comme... Oh, OK, on peut être doux ensemble, on peut... Il y a de la place pour ça. Parce que moi aussi, je suis pas dans OK, je veux me battre. Et je ne veux pas me battre avec les femmes noires avec lesquelles je travaille, les femmes noires que j'aime. Je ne veux pas me battre. on se bat assez à l'extérieur de nos portes dès qu'on sort de la maison. Tu sais, on n'a pas besoin de se battre quand on est un groupe d'amis, quand on est, on peut débattre sur des idées, sur des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais on n'a pas besoin de mettre les gants de boxe puis
tout le temps, c'est ça.
Tout le temps comme ça.
Exactement. Moi, je pourrais parler que d'expérience. Je pense que j'ai dû apprendre à cultiver ma propre douceur déjà. Mmh. Et puis de me redonner cette valeur à moi-même en tant que femme de couleur. Et puis, en fait, de casser le narratif. Encore une fois, un travail pour casser le narratif que la société elle avait pour moi. Et d'être juste ma personne. Moi, je suis quelqu'un de douce, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a que ça. Et puis ce côté force, on doit l'être pour aller survivre et combattre dans la société, aller, comme tu l'as dit, à l'extérieur, s'exprimer et puis parler de tous nos enjeux en tant que personne de couleur qu'on n'a pas choisi aussi. Mm-hmm. Tu sais, j'avais entendu une fois une femme de couleur dire « être noir, c'est être militant ». Quand tu vas dehors, le fait que tu sois noir, t'es militant parce que t'as pas le choix. En fait, le fait que ta couleur te donne ce côté militant. Mmh. Mais comme je vous ai dit, j'ai dû cultiver ça avec moi-même. Et puis moi, j'ai grandi avec beaucoup d'hommes autour de moi, dont mon père, mon frère, mes oncles, mes cousins, par extension des amis que je considère comme des frères aussi. Et puis, je m'autorise beaucoup à être douce avec eux et je les autorise à être doux avec moi. C'est-à-dire avoir des conversations même un peu plus légères. On peut dire ça, mais même quand je fréquente des personnes, je câline beaucoup aussi les hommes qui sont autour de moi parce que je sais que c'est un aspect qu'ils ont rarement à l'extérieur. Et puis, ce n'est pas un effort que je fais, c'est juste que moi-même, je m'autorise à être moi plus avec ces hommes noirs. Et puis, en retour, ben, recevoir aussi leur douceur. Je pense que c'est ça aussi Black Love. Bah, c'est s'autoriser d'être soi en dehors du narratif qui nous est associé à l'extérieur. Mmh. S'autoriser d'être soi ensemble et d'être fort dehors, mais être doux ensemble pour l'un et l'autre, pour s'élever, pour grandir, pour guérir, peu importe, mais juste pour se protéger, en fait.
Mmh. Mmh. J'aime ça. J'aime ça. On va conclure cette section-là de la discussion pour ce soir. To be black is to be... To express black love... is to express yourself without needing to continuously be militant. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, we are talking to Evelyne Ferrière and Olivia Mabote. We are on Radio Land. We are in Radio Land. So we do got to play some bills and we got to play some music. So keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT.
The Prison Radio Show is a twice monthly news show on CKUT. The show seeks to confront the invisibility of prisons and prisoner struggles by focusing on the roots of incarceration, policing, and criminalization, and by challenging ideas about what prisons are and who ends up inside. We are dedicated to programming that is directly collaborative with people who are currently incarcerated. With that in mind, we would like to let you know that we have a phone line for prisoners and their outside supporters. In fact, we have two phone lines. You can call us Collect from Bordeaux Prison and Riviere de Prairie Prison by calling 514-876-3748. We also have a number for non-collect calls. That number is 438-337-8423. Feel free to call that number and leave a message for us with news to share on the show or an audio message for your loved ones inside.
Yeah. Big man. Leon Blanz, BMB.
Some people will always have it made. Some people will live in poverty for the rest of their days. Some people will always have it made. Some
people will live in poverty for the rest of their days. I was grinding on the block by the bring it home. Knowledge we could drop in this ghetto poem. 24 round the clock in your digging home. BMB, Seymour Keys on the microphone. On some blues hip hop, but we can kick it rock. Mainstream be the scene, so we gon' keep it pop. Royalties and publishing, yeah, I'ma keep in mind. Need it on key for melodies so that we can climb. If it wasn't for the music, I'd be no good. Roaming on the streets, acting so hood. Maybe I'm lucky or just some things are meant to be. Either way, I'm loving and appreciate this being me.
Some people will always have it made. Live in poverty for the rest of the day. Some people will always have it
up, he was sent from above. Oh yeah. Swept me off my feet like no other. Make my heart go beat like a drummer. Each time we lock eyes, I know that there's no more searching for my bonanza. Yeah, we got the answer. Even if I try to push him away, he said, he said, let me care for you, my darling. Make you breakfast in the morning, yo. I'll always care for you, my darling. Loving you, my one and only, yo. It was a hot, hot, empty house summer when we got together. Sugar, bang, bang, sugar, so sweet. Such a vibe, oh my, can't deny. Swept me off my feet like no other. Make my heart go beat like a drummer, yeah. Each time we lock eyes, I know that there's no more searching for my bonanza. Yeah, we got the answer. Even if I try to push him away, he say, he say, let me care for you, my darling. Make you breakfast in the morning.
Yes, 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 we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. Our guests returning this evening are Evelyne Ferrière and Olivia Mabote. Evelyne is an intervenante en prévention des violences sexuelles et exploitation sexuelle. Et Olivia est la coordonnatrice du programme Genre et Égalité, and both of them are at Prévention CDN NDG. Merci beaucoup d'être revenu ce soir pour discuter avec nous. On a une belle conversation. Dans la dernière partie, on a parlé beaucoup de comment briser la perception de négative de Black Love. Et aussi, on a discuté un peu de la perception de la femme noire en tant qu'être forte et quelqu'un qui est perçu comme non doux et non, non souple. Ce que je pense, c'est une conversation, surtout dans les médias sociaux, qui devient de plus en plus... It's more and more, quote unquote, popular to speak about this. We hear a lot about the soft girl era, soft black girl era. And I want to throw my hat in there, the soft black boy era.
Yes.
Yes.
We do have to maintain this armor very often. And je trouve que c'est nécessaire. Bon, si on pense de quelqu'un qui va au gym, qui va pour faire de la musculation. Cette personne-là a besoin d'un régime qui, à un moment donné, la personne doit poser les poids, puis on prend un break aujourd'hui, que ce soit 2 jours de suite, 2 jours pendant les 5 jours, whatever. Il faut du moment pour relaxer. Et souvent dans les programmes, disons P90X, etc., il y a toujours 2 jours durant le programme, même si le programme est 7 jours, il y a toujours 2 jours que c'est comme, c'est plus posé. C'est pas aussi physique, c'est pas aussi musculation. Mm-hmm. Il y a des étirements, il y a du yoga qui est incorporé dedans. Donc, pourquoi est-ce que on va dans ces programmes-là d'exercice or whatever, on les achète pour les faire, puis on voit qu'il y a 1 ou 2 journées où c'est comme poser, prenez soin de vos corps, mais dans la vie, on ne le fait pas. Dans nos relations interpersonnelles, c'est beaucoup plus dur.
C'est une question que tu nous poses à nous, là?
Je lance pour ouvrir la conversation.
Genre, pourquoi on prend pas... pourquoi là-bas, on est habitué à comme se faire des pauses? Mm-hmm. Et pourquoi dans notre vie, au fait, on ne se prend pas le temps de récupérer?
Mm-hmm.
On est comme toujours quand de comme what's next.
Yeah.
Yeah. Moi je pense que c'est beaucoup un truc que j'ai beaucoup. Je sais que ça c'est un des schémas que j'ai du strong black woman.
Mm-hmm.
Le fait de accumuler, prendre plein de choses un derrière l'autre, mon agenda, même moi je sais plus comment je vais faire. Mais tu sais que, mais ça je pense que c'est un truc. J'ai grandi dans j'ai été élevée comme ça, je pense aussi à comme, pas la danse aussi, mais aussi en tant que femme noire, à comme me détacher de mon cœur, donc à me détacher du coup de ma fatigue, de mes émotions, de ma frustration, de ma tristesse. Donc j'ai beaucoup grandi dans ce truc de continuer à être performante. Mm-hmm. Même si tu es fatiguée, même si tu es blessée, en plus en tant que danseuse, c'est vraiment quelque chose de la danse classique, je pense que vous savez, c'est vraiment très très dur pour le corps, mais tu dois performer. Tu dois performer, tu dois pas montrer que tu souffres. Donc je pense que cette culture-là fait que je l'ai accumulée aussi avec le fait d'être une femme noire. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment dur pour moi de prendre une pause et de prendre moins de projets, par exemple. Moins de projets, moins de responsabilités. Quand je suis fatiguée, de me dire, OK, ben, je vais faire une pause. Mais par exemple, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu parler avec d'autres femmes noires, d'autres personnes noires, que OK, mais c'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Et c'est un acte presque militant, en fait, de le faire, de comme, OK, ben, rest mm-hmm. is productive. Tu sais, comme, je vais me reposer, je vais prendre conscience de ce que je ressens. Et ça, juste ça, c'est une forme de black love. Et essayer de comme intérioriser le fait de, OK, ben, je suis pas obligée de toujours super performant tout le temps, avoir des super chiffres, avoir des super projets each time, je peux juste comme avoir rien en faire pendant une semaine. Et ça, Charlotte ou Olivia qui m'aident vraiment dans ce process-là. On est vraiment des fois au bureau quand on dit, mais c'est too much. On va rien faire, c'est bon, très bien. No, je pense que comme ça, on s'aide déjà, et c'est déjà une forme de sisterhood aussi, le fait que, si on se soutient entre nous. Mm-hmm. Dans cette charge qui est mentale, mais aussi physique, aussi au final.
Ouais. Pour ma part, je suis d'accord avec Evelyn. En fait, nous, en tant que personne noire, on nous a appris à aller en guerre. En fait, on va en guerre tout le temps. Mm-hmm. On doit perform, on doit être mieux. En fait, on doit toujours travailler mieux que les autres. Même le fait de dire, ah, tu vas travailler 2-3 fois plus qu'une personne blanche pour avoir la même chose que ce que la personne blanche a.
Et on même travaille... des fois, on dit qu'il faut travailler 2 fois plus fort pour avoir la moitié.
Ah, tu vois, regarde. Tu vois, on a tous entendu ça. Mm-hmm. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, la même chose que nos parents, eux, ils ont appris quand ils étaient plus jeunes, ils nous l'ont donné. Il faut travailler plus, il faut faire plus, il faut changer les choses. Et en fait, on l'a à l'intérieur de nous, ce qui fait que quand nous, on ne fait rien, on est inconfortable. On est obligé de faire quelque chose. Yes. Et moi, comme tu as dit, la période de récupération, comme tu as fait l'image du sport, là, je l'ai appris parce que moi, j'allais avoir un burn-out.
Oui.
Et puis, quand tu as un burn-out, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui va t'aider dans cette société? Tu es toute seule, tu es tout seul.
Yeah.
On parle beaucoup de santé mentale, on parle de suicide dans nos communautés, un peu plus qu'on ne parlait à l'époque de nos parents, où c'était un grand tabou, ou c'est encore un tabou.
Oui.
Jusqu'à présent, moi, quand j'appelle mes parents pour leur dire, écoutez, je vais pas bien, on a 2 conversations différentes, ils comprennent rien du tout qu'est-ce que je dis. Je veux dire, je suis fatiguée, mais prime, Jésus est là. Ouais, ok, mais j'ai besoin de me reposer aussi. J'ai besoin de me reposer.
Regarde.
Voilà.
Si la 7e journée, Dieu a pris un repos là, ok.
Tu vois. Exact. Mais nous, malgré ça, on se repose pas, on continue et on est obligé. Moi, je pense que ouais, je me le redonne comme vraiment comme tout à l'heure, on parlait en aparté d'être lazy et puis en même temps d'être performant. Mm-hmm. Ben, moi, je me le redonne comme ça, c'est-à-dire que je connais mes capacités, j'ai confiance en moi. Et puis des fois, si je dois ralentir le rythme en même temps, donner la même quantité, qualité de travail, je fais exactement la même chose. En fait, c'est des moments à moi où je me le redonne en obligé de déposer les armes, on va dire.
Ouais. Mm-hmm. Tu sais, quand j'y pense vraiment, le système de travail, par exemple, en 2021, mon père est décédé en janvier. Et quand j'ai parlé avec mon travail à l'époque, j'avais 3 jours de deuil que je pouvais prendre. Donc, à l'époque, j'avais 40 ans. Donc, ce qu'il voulait me dire, c'est que 40 ans de relation avec mon père, qui vient de mourir, je dois être capable de faire mon deuil à l'intérieur de 3 jours.
Bonjour.
40 ans de relation.
Regarde.
Mais j'ai quitté mon job l'année prochaine, en 2022, et j'ai pris 3 mois de deuil avant de me remettre. Et là, même, des fois, il y a des jours que c'est comme, je me réveille, puis je suis comme, oh shit, je peux pas l'appeler. Et c'est la même chose, c'est comme, on nous demande de continuer à s'exprimer, d'être fort, d'être dur, mais à quel moment est-ce qu'on a le droit de se calmer, de poser et de comme prendre soin de nous? J'ai fait un breakdown avec des amis. J'ai dit, même si tu travailles 8 heures par jour, tu arrives à ton travail à 8 heures du matin, disons 9 heures du matin, puis tu pars à 4 heures ou bien tu pars à 5 heures. Tu travailles en actualité à peu près 10 à 12 heures par jour. Parce que le voyage, si ça te prend entre 30 minutes à 1 heure, that's an hour of work. Tu fais pas ce voyage-là pour toi-même. Tu le fais pour le travail. T'es pas récompensé pour ça. Quand tu arrives chez toi, disons que c'est un travail qui est chargé mentalement. Souvent dans des cas de personnes qui travaillent avec en intervenance et tout ça, on peut pas juste comme éteindre le bouton puis tu viens d'avoir une grosse discussion en fin de journée avec une cliente justement leur situation de violence à la maison, tu peux pas juste comme ok clic. Puis non. Tu sors du travail, puis c'est fini. Tu vas en penser, tu veux trouver des solutions, tu fais ton deuil pour la personne, tu es en train de vivre tout ce qui est, surtout si tu es quelqu'un qui a beaucoup d'empathie, tu es en train de vivre ton travail à la maison et tu dois comme prendre le temps pour déploguer ça. Ça te prend une heure pour déploguer, après ton une heure de voyage chez toi, là c'est 10 heures du soir. T'as fait quoi de ton temps? Tu commences à regarder une émission, peut-être, pour avoir ton temps. Mais c'est pas payé.
C'est pas payé. Cette charge mentale n'est pas payée. Et tu sais, et ça, je pense que c'est un peu mon petit coup de gueule à ce sujet. Tu sais, comme les intervenants, ou tu sais, gens qui ont un peu le même type de job que le mien, on est frontliners quand même, mais. Moi, il y a un gros manque dans la communauté, il y a un gros manque structurel. Comme on a besoin de ressources, on a besoin de psychologues qui sont mis en place, on a besoin de... Parce qu'on peut aider les autres, on est formé pour ça, on est très compétent pour ça, mais on a besoin de pouvoir savoir qu'on a quelqu'un qu'on pourra y aller, que ce n'est pas forcément notre conjoint ou quoi, parce que dans mon cas, par exemple, moi, je suis une femme immigrante ici, ça sera comment je bâtis, moi, mon support system. J'ai besoin d'avoir la garantie que dans le cadre de mon métier d'intervenante, je suis supportée par des psychologues, que mon travail, que les organismes mettent en place du quartier. Et ça, c'est très, très pauvre. Il n'y en a presque pas. Et surtout pour les personnes noires et les femmes noires. Si je regarde les pourcentages, les femmes noires dans le métier du care, on est surreprésentés. Il y a énormément de femmes noires qui sont infirmières. On est formés à prendre soin des autres en permanence. Je suis intervenante. On give back to the community each time. On prend soin dans les hôpitaux pendant la pandémie. On est des frontliners. Mais après, qui prend soin de nous? Qui nous permet de rest? Et comme tu as dit, de faire cette pause de « j'ai vu plein de choses difficiles au travail, j'ai entendu des choses compliquées ou quoi. Comment moi, je rentre chez moi après ?» C'est pas un voyage une heure de temps dans les transports ou une heure qui vont me permettre de ventiler. On a besoin de support et on n'en a pas. On commence à en parler, mais on voit encore une fois les limites. On voit les limites. Moi, je commence à en parler, mais je vois les limites que les gens ne comprennent pas. Et je comprends qu'on peut. Il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre, mais je pense qu'il faut prendre la peine d'écouter les gens qui disent listen, je veux bien faire mon travail, je veux bien être compétente et aider, mais à une condition. C'est que vous ne me laissez pas tomber quand moi je craque. Et c'est toute la rotation qu'on a énormément dans le communautaire ou dans les travaux de care. On craque et on quitte une rotation. Donc là, on ne peut pas engager un travail communautaire social durable si toutes les personnes partent burn-out. C'est sûr que si demain, moi, par exemple, je fais un burn-out, c'est un événement traumatisant. C'est sûr que je ne vais pas revenir dans la communauté. Je vais changer de job. et pourtant j'étais compétente. Mmh. Donc ça, je pense que c'est un gros, gros souci de... Il n'y a pas de structure pour nous.
En tout cas, est-ce que moi je dois rebondir dessus? J'ai peur même de rebondir dessus parce que moi, moi mon approche, elle est très organisationnelle. Et puis en tant que coordinatrice, on travaille avec les directions, on travaille avec les gens de la ville, l'arrondissement de Montréal, la ville de Montréal. Et puis on se rend compte qu'ils ne comprennent même pas tout court le problème qu'il y a autour de... du manque de ressources humaines dans les travails communautaires ou les travails qui sont proches de la communauté. Et puis, à quel point ça, ça impacte tout ce qui est problématique sociale plus haut, c'est-à-dire quand ça vient à eux, c'est-à-dire nous, on a déjà eu le problème en bas. Et puis, ce que Evelyne a dit, du côté de elle, se sentir pas protégée. Mais, en tout cas, c'est pour ça que j'ai peur de répondre à cette question, parce qu'elle est très difficile. Quand il manque des gens sur le terrain, ça veut dire que nous, dans nos communautés à nous, nous, on perd. Mmh. C'est nous les premières personnes qui souffrent du manque de personnes sur le terrain. Et c'est nous les premières personnes où on va pointer du doigt quand il y aura des problématiques. Quand on dit prévention des violences sexuelles, quand on dit délinquance, quand on dit violence, quand on dit, on regarde beaucoup nous. Hein. Et surtout dans les secteurs qu'on dessert, Côte des Neiges, NDG, quand on parle de toutes ces choses-là, on parle de nous. Quand il manque des gens sur le terrain, quand des gens s'en vont pour des burn-out parce qu'on les a trop utilisés, quand on manque de ressources, quand on manque d'argent, bah c'est directement nos communautés noires en premier, après les autres communautés culturelles qui souffrent. Donc, ma réponse, c'est le chaos, parce que bien évidemment, c'est le chaos. On essaie de se faire entendre plus haut, mais on voit qu'il y a quand même des difficultés là. Chacun reste dans son propre système. Et puis, on a du mal à voir les vrais changements nécessaires pour nous soutenir, nous.
Well, ladies and gentlemen, if you are joining us for the first time, we are speaking in French, yes, because our guests are primarily Francophone, and we are getting into some subjects, but this is Radio Land. On a besoin de payer nos bills et jouer de la musique, so that's what we're going to be doing. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
Hey. I flowed. It's hard to look at my resume, whoop, and not find a reason to toast. She throwing a thing in a circle, making it viral, I might just a loaf. Say, listen, la mama, you like shibari? Watch while I show you the ropes. I used to let niggas get to me. I used to be my own enemy. Now I done had several epiphanies over some breakfast at Tiffany's. Had to forgive all my frenemies. They are not who they pretend to be. I had to protect all my energy. I'm feeling much lighter now.
Yes, we're back, we're back, we're back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson, and I've been having a really full conversation with Evelyne Ferrière and Olivia Mabote. Both of them work at Prévention Côte des Neiges NDG. Evelyne is an intervenante at intervenante en prévention des violences sexuelles et exploitation sexuelle, et Olivia Mabote is the coordonnatrice du programme Genre et Égalité at Prévention Côte des Neiges NDG. On a eu une conversation assez lourde et assez diversifiée dans nos sujets par rapport à Black Love et par rapport à l'homme noir, la femme noire, le système, le racisme systémique, les problèmes qu'on a par rapport au travail versus repos. Et là, on doit terminer ça en 15 minutes. Les dernières 15 minutes qui restent, somehow we have to summarize and conclude this discussion. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui se fait chez Prévention Côte des Neiges NDG aussi. Donc on va essayer de compacter tout ça dans les dernières minutes qui nous restent. Evelyne, Olivia, merci beaucoup d'être revenue sur les ondes. Je suis vraiment content. La dernière fois, on a pu à peine, as we say in English, skim the surface of the discussion. Là, ouais. Je pense qu'on a vraiment... On s'est mis dans la sauce, comme on dit. On est dans la sauce. Pour la discussion. Oui, des dernières pensées sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui?
Dernière pensée sur les sujets, je pense, tu sais, la première émission qu'on avait fait ensemble, tu as dit un thème qui m'est beaucoup resté en tête, c'est giving back to our community. Donc, nous, on fait des projets, nous, on lance des idées et tout, et pouvoir en parler sur les ondes à plus grande échelle, c'est giving back to them. Giving back de ce qu'eux, ils nous ont donné dans ces projets-là, et comment on peut en parler et continuer la conversation. Donc, ici, on continue les conversations.
Okay.
Ouais. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord sur tout ce qu'elle dit. Moi, je dirais, c'est essentiel de pouvoir avoir des discussions comme ça. En fait, on en a besoin. C'est d'ouvrir des portes. Comme tu as pu le voir là, c'est 15 minutes de séquence qu'on a, mais en même temps, on pourrait y aller tellement plus loin dans les sujets. Et puis, à chaque fois qu'on parle dans les jeunesses ou quand on fait des événements, qu'on essaie de parler de certains sujets, il y a des choses, il y a des idées. Et c'est ça aussi Black Love, quand on disait d'avoir des espaces pour parler et pour débattre et se guérir. Mm-hmm. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là maintenant. Et puis, merci de nous avoir pour discuter de tout ça.
Oui, absolument. Pour les gens qui écoutent, qu'est-ce que vous voulez que les gens prennent après la conclusion? Qu'est-ce que vous espérez que les gens réfléchissent?
Comment les gens peuvent réfléchir? Je pense de façon très large pour les personnes noires et les personnes qui ne sont pas noires. Je pense une première étape, c'est prendre conscience de qui c'est important des fois de se reposer et se dire, OK, mais quelle place j'occupe? Et quels sont mes privilèges à moi? Et quels sont mes défis? C'est ça. Ouais.
Olivia?
Ouais. De mon côté, je suis d'accord avec Evelyne. Et puis, je dirais aussi, comme elle a dit, essayer de se découvrir soi-même avec nos difficultés pour se reconstruire en dehors des schémas que la société veut qu'on soit et qu'on appartienne. Et rechercher aussi cette identité dans la communauté. Ça ne veut pas dire sens communautaire, on reste dedans, mais juste le fait de savoir qui on est, qui est-ce qu'on était, ça nous permet de savoir où est-ce qu'on va.
J'aime ça. Know who you are, who you were, to know who you can be. Intéressant. Et avant qu'on a commencé à enregistrer l'émission, vous m'avez dit que vous avez des événements qui s'en viennent. Quels sont les événements prévus pour notre printemps, entre guillemets, qu'on attend toujours?
Un printemps compliqué, hein? Moins 20 ouais. degrés ce matin. Mais quels sont les événements qu'on prévoit? Donc déjà, on en a un qui arrive en mai, en partenariat avec le Chalet Kent, où on va là faire un projet sur la cybersexualité. Le plaisir sur le net, comment on peut naviguer et se protéger en découvrant aussi ces nouveaux espaces de sexualité, l'intelligence artificielle, on peut en discuter. Donc ça, c'est en mai. Et après, l'été, ça plus pour l'été, essayer de créer un espace pour les filles de summer camp, basketball, en partenariat peut-être avec le CELO. Donc, on essaie de pousser ça, on essaie d'investir, voir comment on peut, comme get together, les acteurs de la communauté de Côte des Neiges et pousser un truc pour nos jeunes et pour nos jeunes filles. Et donc, c'est ça.
Ouais, mon projet, de mon côté, on le fait toujours en équipe, mais l'autre projet, c'est le festival Hip Hop You Don't Stop, se fait chaque année. Ça fait 19 ans qu'il existe, mais personne ne connaît encore. C'est en termes de visibilité dans nos communautés, là. Dans le travail communautaire, on souffre pour la visibilité, mais on est là. Et ça fait 19 ans qu'il existe. Ça fait un an que moi, j'ai repris le projet. Donc, on accompagne les jeunes dans leur créativité. À travers le hip-hop. Donc, on essaye de le faire sur 2-3 jours. On fait des journées de battle, de danse et des journées familiales aussi où les jeunes peuvent, avec leur famille, jouer avec des activités différentes, mais tout ça lié sous le thème du hip-hop. Donc, voilà. Et septembre, c'est vers septembre.
OK. Où est-ce que les gens peuvent trouver de l'information sur vos événements, sur votre organisme, Prévention Côte des Neiges NDG et tout ça?
Je pense en grande partie sur Instagram. En grande partie sur Instagram en ce moment. On poste beaucoup là-bas, on fait beaucoup de promotions aussi pour les projets, comme tu dis. Sur Instagram et avec nos partenaires, on fait des collabs ensemble sur les réseaux sociaux. Voilà.
Voilà.
OK. Pas encore TikTok.
Merci beaucoup, Evelyne, Olivia, d'être venue ce soir. Thank you so much for coming. Ladies and gentlemen, you know, c'est quoi le... Tu n'as pas dit le handle, le Instagram?
Oh yeah, donc c'est Prévention, le IG de Prévention, Prévention Club des Neiges NDG, ou aussi une sous-partie spéciale pour les violences sexuelles, Ado Sex Info. Mais en général, Prévention Club des Neiges NDG.
That brings us to the end of the show, ladies and gentlemen. So grateful to have these amazing, amazing community workers with us this evening. We are here every Tuesday evening, just so you know. Just in case it's your first time listening, we talk about everything that's going on in the Black community here in Montreal, across Canada, and internationally. Because of the good old pandemic, we have changed the format to allow for larger discussions, more in-depth discussions with our guests. And we'll be having a lot of different guests for you lined up for the month. And at the end of the month, we will have our team talks. So stay tuned for that, because that's going to be at West Haven Community Center with Ziplocs, who you can hear every Sunday evening on Il Groove Garden. And that brings us to the end of the show. It is from 7 to 8:30 p.m. every Tuesday evening. We hope you join us back. You can listen back to the show if you caught only a little piece of it, or you want to hear some of our other shows. Go to ckut.ca, go to Programming and Archives, go over to Tuesday, scroll down to Soul Perspectives, and you'll have all of our shows for the last at least 2 to 3 years. My name is Kim Dominique Ferguson, and you have been listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM.
I'm from outer space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away. I'm illuminated, I'll make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the brains they want to co-sign. Artificially intelligent AI. I'm your future, past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a mislead of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just float.
Nuit d'Afrique presents Malian superstar Oumu Sangaré, who has influenced the likes of Beyoncé and Alicia Keys. Umu Sangare will perform an exclusive concert at M. Tillus on April 21st, 2024. Tickets and info at festivalnuitdafrique.com.
Pendant plus de 30 ans, Louis-Yves Lucien, homme d'affaires, entrepreneur, s'est construit une réputation sans faille. Et son savoir-faire se définit en 5 mots. Compétence, professionnalisme, discrétion, transparence et expérience. Projet de transaction, achat, vente d'une propriété immobilière, en un tour de main, en un tour de clé, avec Louis-Yves Lucien, c'est vous qui gagnez. Qu'il s'agisse d'un premier achat ou d'acquisition d'un multi-logement locatif, investisseur immobilier, vous êtes parmi ses clients privilégiés. Il prendra plaisir à partager avec vous son savoir-faire. Contactez Louis-Yves Lucien au 514-867-8352. Ce n'est pas sans raison que la communauté se reconnaît en lui.
Dans l'industrie de l'audio, de la vidéo, de l'éclairage et de la sonorisation professionnelle, l'équipe de Sonomusic est incontestablement la meilleure. Ayant constamment innové depuis 20 ans dans le domaine de la sonorisation des grands événements et grâce à son système dernier cri, constitué d'enceintes acoustiques à la fine pointe de la technologie, Sonomusic vous offre une sonorisation puissante de grande envergure sur une longue portée. Pour la meilleure qualité de sonorisation possible à petite, moyenne et grande échelle, choisissez Sonomusic, le leader qui pense, innove et bâtit l'avenir de la sonorisation avec les nouvelles technologies. 3950 Jean Talon Est, coin 22e, proche de Pineuf. Téléphone 514-723-6101.
Ascoltate emissione di radio Marcaro Penose 3 FM CKUT. Marca Ro.
Io vara non dormo, ehi, de che da